voici réunis, Michel Carrouge, pour notre deuxième entretien. Nous avons, la dernière fois, détaillé, analysé, document en main, ces différentes machines célibataires. Nous avons dénoncé les points de repère qui permettent de les éclairer les unes par rapport aux autres. Nous avons insisté sur le caractère érotique de ces machines. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous débouchions sur une réflexion plus métaphysique, si j'ose dire. Est-ce que si ces machines prennent une allure démoniaque, si elles révèlent un homme broyé, concassé, prisonnier d'une série de machicoulis et de cames qui le détruisent et qui le ramènent à un grain de poussière, si ces machines, dis-je, prennent cette allure démoniaque, n'est-ce pas parce que ceux qui les ont créés, conçus, Kafka, Roussel, dont nous avons peu parlé, ou pas du tout, je crois, à la dernière émission, Roussel, Kafka, Villiers-Lisle-Adam ne sont pas des artistes, donc des gens portés, enclins à noircir le tableau. Et si c'est Artaud qui disait qu'il suffisait d'écrire pour prouver par là qu'on était malade, est-ce que par leur machine, ces hommes n'ont pas voulu décrire d'abord l'emprise qu'ils sentaient peser sur eux? Est-ce que vous ne pensez pas, au contraire, que ces machines peuvent déboucher sur quelque chose qui n'est pas simplement un cauchemar, mais une organisation plus harmonieuse de l'univers? Tout à l'heure, nous parlerons, si vous voulez, du livre de Royer, La Gnose de Princeton, où ces savants américains ont justement essayé de réfléchir sur cette gigantesque machinerie du monde dans laquelle nous sommes prisonniers. Et ils ont, semble-t-il, commencé de découvrir une ouverture. Bon, mais il y a trop de questions dans ma question.
Bien, la première chose que je vous répondrai, c'est qu'il ne faut jamais perdre de vue l'humour. L'humour noir, mais l'humour qui est un élément essentiel de la pensée de ses créateurs.
C'est vrai.
De tous, on peut le dire.
Jarry avec son train, même Duchamp.
Ah, Duchamp, très certainement.
Peut-être moins, c'est moins sensible dans Jules Verne ou dans L'autre et Amont.
Oui, certainement il y a des différences. Mais alors voyez-vous, pour moi ce qui importe, ce ne sont pas les différences personnelles. Ce qui me passionne avant tout, justement, ça va dans le sens de ce que vous dites, c'est la recherche du message général qui apparaît à travers ces différentes machines individuelles. Car ce qui est le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que si certains de ces créateurs se sont connus, en réalité, la plupart d'entre eux se sont très peu connus, et même quelques-uns pas du tout, car il n'y a eu aucune relation entre Duchamp et Kafka. Ceci, j'en suis certain, car Duchamp lui-même l'a confirmé. Par conséquent, leur interrogation, ou du moins, enfin, l'interrogation qui passe à travers leur machine, c'est une interrogation qui dépasse complètement les problèmes individuels qui se posent à eux. Et alors, c'est la raison pour laquelle je pense que ce qu'ils ont exprimé vient du fond des âges et exprime sous une forme moderne, sous la forme de vraiment d'un mythe moderne, parce que la transformation est complète. Ces machines expriment ce qui est au fond de la pensée grecque, l'aspect noir de la tragédie grecque et de la mythologie grecque, car enfin, derrière l'image de la colonie pénitentiaire, comme derrière l'image de la cabine métallique de l'Inquisition, il y a ce vieillard Cronos, ce Saturne, qui est à la fois le dieu du temps et le dieu anti-génération, celui qui châtre son père Uranos et qui a cherché et qui a tué, qui a mis à mort ses enfants, donc puisque Zeus seul a échappé. Et je pense que la grande transformation qui s'exprime ici, c'est que au lieu d'images animales ou d'images purement humaines, d'images anthropomorphiques, nous avons affaire à des images mécaniques. C'est la machine qui est devenue la nouvelle image des dieux, la nouvelle image de la toute-puissance Et c'est en elle que l'homme met son espérance, et c'est aussi contre elle qu'il se dresse.
Oui, mais ce qu'il y a de singulier, et peut-être de différent avec les mythes anciens, c'est que dans chaque cas, que ce soit Duchamp, Villiers ou le Trianon, c'est toujours sous une forme, macabre, maléfique, que ces machines fonctionnent. Il n'y a pas d'ouverture. Cette atmosphère est étouffante, et c'est même cet étouffement que ces gens ont voulu évoquer et dominer.
Et dominer.
Ah, bien. Alors justement, c'est sur cette domination que je voudrais vous pousser dans vos retranchements, là. Vraiment, oui. Vous pensez que ces gens dominent cette machine? Moi, j'avoue que je ne vois pas, mais expliquez-nous.
Eh bien, dans la mesure où ils l'ont projeté hors d'eux-mêmes et où ils ont essayé d'en prendre conscience, et à mon avis, ils ont été... Si le spectacle qu'ils dépeignent est tragique, d'abord ils sont, l'excuse de la vérité, ils sont dans la ligne de la tragédie grecque. Et d'un autre côté, en la projetant hors de nous, nous essayons de, non pas de nous en échapper, mais de la dominer par l'esprit, par l'humour et par la compréhension. Et dans le cas de Duchamp notamment, il y a un effort extraordinaire de recherche vers ce qu'il appelle lui-même une sorte d'information submentale, n'est-ce pas, qui peu à peu remonte à travers nous et nous fait échapper à des spectacles trop simples, trop faciles, que nous croyons comprendre, tandis que là, nous avons une révélation de nous-mêmes. Et je le dirais que c'est la fonction cathartique du théâtre, dont on parle d'Aristote et qui est, enfin, c'est classique, mais c'est la même fonction. Parce que l'aspect théâtre, il ne s'agit pas de machine au sens habituel du terme, de machine destinée à une fonction d'utilité, à une fonction de production. Il s'agit de machine de théâtre. Et ceci est tellement vrai que presque tous ces hommes ont été des hommes de théâtre. Jules Verne a été secrétaire du théâtre lyrique. Kafka était passionné par le théâtre yiddish. Et d'ailleurs, dans ces deux cas, vous voyez, Jules Verne, le château des Carpates, c'est une histoire de théâtre. Kafka, la structure de la colonie pénitentiaire, c'est une histoire de théâtre. Le procès, il y a le côté théâtre. Prenez tous les autres, chez Roussel, il y a une espèce, locus solus, ce n'est pas du théâtre au sens strict du terme, mais c'est une sorte de musical et de fête foraine. C'est donc encore du spectacle. Chez Bioy Casares, l'invention de Morel, c'est du cinéma ou de la télévision. Enfin, on peut les passer.
À propos de Roussel, vous disiez d'ailleurs dans votre livre, vous parlez d'une fête foraine de la magie, un avatar moderne des mille et une nuits.
Oui.
Bien oui, mais... Donc, alors, si je vous ai bien compris, le fait de représenter cette machine, pour chacun d'eux, est une façon de s'en libérer. Tout en montrant l'homme asservi par cette machine, c'est une manière de s'en libérer, ne serait-ce que de prendre par le fait qu'ils prennent une distance avec elle. C'est bien ça.
C'est cela, ils prennent une distance avec elle, ils essaient de prendre conscience, c'est la toute première chose pour l'homme, parce que c'est la lutte contre une aliénation fondamentale. Et c'est la même lutte qui est reprise d'âge en âge, c'est, je vous dis, comme pour la tragédie grecque. Car finalement, qu'est-ce que c'est derrière les aspects sexuels, derrière les aspects terrifiants de condamnation pénitentiaire? Il y a le drame perpétuel de l'homme, le drame que les latins appelaient le drame du fatum, de la nécessité, de la destinée à Ponce et à l'âme, ou que les Grecs appelaient l'ananke, et que les créateurs machines célibataires traduisent sous la forme de machine, au lieu de la traduire sous la forme d'un dieu, par exemple, qui intervient au milieu d'une scène humaine. Là, c'est la machine. C'est la pression du hasard, de la nécessité sur les hommes. Et alors là, il y a une énigme perpétuelle qui se pose à l'humanité. Et ces créateurs, au fond, nous montrent la manière profonde dont l'homme réagit à cette éternelle nécessité dans le cadre de la civilisation moderne. D'ailleurs, il y a un autre aspect qui est non moins frappant et qui se situe précisément à la même époque, c'est l'œuvre de Giorgio de Chirico, le célèbre peintre italien, car ce qu'il représente sur ses toits, c'est essentiellement des scènes de théâtre. Ce sont des décors avec des mannequins qui ne sont pas des machines qui fonctionnent mécaniquement, mais ce sont des machines, des machineries quand même. Et avec ces machines, ces mannequins et avec ces décors de théâtre, lui aussi revient à la ligne du théâtre antique, et il exprime quelque chose qui, au fond, se retrouve, passe à travers toutes les civilisations, quelque chose que nous étions en train d'oublier, mais car il y a une ressemblance extraordinaire entre certains mannequins ou certains masques de Chirico et des masques africains. Et pour moi, il y a là, dans ces représentations, il y a quelque chose, dans ces représentations des machines célibataires, dans ces différentes œuvres, non seulement littéraire, mais pictural quand il s'agit de Chirico, ou extra-pictural, si l'on veut, quand il s'agit de Duchamp, il y a quelque chose qui nous rapproche des cérémonies de masques, qui est préparatoire aux cérémonies de masques qui se passent dans les civilisations dites primitives. Et alors là, nous rejoignons Artaud. Je pense qu'avec Duchamp et Chirico, il y a des éléments qui se rapprochent énormément de ce que Artaud appelle le théâtre de la cruauté. Il y a un aspect tragique et terrible, mais parce que justement, dans une civilisation, je dirais, de la superconsommation, ces créateurs nous rappellent ce qu'il y a de fondamentalement tragique dans la vie humaine, dans le destin, dans l'énigme du destin des hommes. Et alors ce qu'ils font, eh bien, c'est d'explorer, dans la mesure où ils le peuvent, l'énigme de ce destin, et en retrouvant des lignes de force qui sont celles des civilisations les plus antiques. Je parlais du théâtre grec, mais je peux parler aussi des masques africains, particulièrement des masques d'Ogon.
Éclairant, parce que c'est le premier pas vers une certaine libéralisation de cette machine. À partir du moment où cette machine est dénoncée dans son mécanisme répressif, elle commence à être dominée. Et c'est l'idée d'ailleurs dont nous parlerons dans une prochaine émission à propos du livre de Mumford, Le mythe de la machine, qui transparaît à travers le livre de Mumford. Cette idée que finalement ce qui fait l'essentiel de l'oppression de la machine, c'est la confiance qu'on lui accorde. C'est le crédit qu'on lui donne, et le seul moyen de s'en libérer, c'est précisément de la remettre à sa place, de la dominer, et pour la dominer, il faut commencer par la voir. Et c'est ce que vous venez de très bien nous expliquer. Et bien maintenant que nous avons, si j'ose dire, tourné la page des machines célibataires, la question que je vous pose est de savoir à quoi vous travaillez aujourd'hui. Et si ce dont vous vous occupez aujourd'hui, à savoir, je crois, les soucoupes volantes, s'inscrit dans l'étude que vous avez faite des machines célibataires, et en quoi?
Eh bien, on peut dire qu'il y a une analogie, dans la mesure où, au début, je me suis occupé du problème des soucoupes volantes en partant des témoignages qui me paraissaient les plus sérieux, pour voir quelle était leur cohérence sociologique et géographique, et la cohérence de leur contenu. À partir de là, je suis arrivé à admettre la réalité du phénomène en tant que phénomène extérieur, mais alors depuis, le point sur lequel, ou plutôt la partie sur laquelle je porte mon analyse, c'est celle qui concerne les apparitions, disons, de martiens ou d'extraterrestres, parce que dans ce secteur-là, on a affaire à des témoignages qui, dans certains cas, paraissent sérieux, mais là, tout ça, c'est tout à fait aléatoire, et d'autres témoignages pour lesquels on a des problèmes d'interprétation qui me paraissaient très embarrassants jusqu'au moment où j'ai compris qu'on pouvait les placer sur le plan de l'analyse mythique. Et dans la mesure où il y a un aspect pataphysique de certains de ces récits concernant des apparitions d'humanoïdes, par exemple, ou d'êtres plus ou moins fantastiques, on a la possibilité de mettre en lumière à quel point ces témoignages-là dépendent de pulsions mythiques qui sont analogues aux pulsions mythiques qui ont fonctionné chez les créateurs de machines célibataires. Autrement dit, vous avez des pulsions mythiques qui peuvent ne fonctionner que chez des artistes au sens classique du terme, mais il y a des pulsions mythiques qui peuvent arriver, au moins dans certaines circonstances, à fonctionner chez l'homme de la rue.
Je relève votre expression « pulsion mythique » qui est effectivement très parlante. J'ai vu récemment que on est en train, il paraît-il, de répertorier les photographies qu'on a découvertes du monstre de Loch Ness.
Oui.
Et il semble que les Écossais soient très embarrassés, car s'ils s'aperçoivent que ce n'est simplement qu'un animal qui vit dans ce lac, eh bien ils seront privés de leur mythe. Le mythe aura disparu de sous leurs pieds, et la pulsion mythique ne pourra plus s'exercer sur ce monstre.
C'est vrai, parce que je pense en effet que ce qui nous permet de faire un lien avec ce que vous dites, le problème que vous aviez soulevé au début, je pense que ces problèmes-là dépassent l'analyse individuelle de chaque créateur ou de chaque témoin, ce qui n'est pas du tout de mon ressort. Ce qui m'intéresse, c'est le moment où il ne s'agit plus de pulsion personnelle, de même inconsciente, mais d'une pulsion psychobiologique, liée au plus profond de l'être humain, quel qu'il soit, et même s'il ne connaît pas les structures mythiques dont il est question.
Mais alors maintenant, il y a une autre question que je voudrais vous poser, un peu insidieuse. Nous savons quel a été le bruit, je peux dire, qui a suivi votre entrée fracassante chez les surréalistes. Ce que vous reprochez, ou ce que reprochaient certains surréalistes à Breton, c'était de vous avoir, au fond, pris sous son aile, alors que vous étiez un homme qui avait une foi religieuse, chrétienne. Est-ce que cette foi, vous l'avez toujours, votre foi religieuse vous sert, ou en tout cas vous permet de donner à ces mythes dont vous nous parlez une explication, une justification? Les voyez-vous, les replacez-vous dans votre foi religieuse?
Oui, certainement, mais je tiens actuellement, justement, au point de vue méthodologique, pour éviter toute possibilité de confusion, à distinguer catégoriquement les interprétations internes des interprétations externes. Les interprétations internes, je veux dire, ce sont celles qui résultent soit de ce qu'ont dit les créateurs eux-mêmes, soit de la confrontation entre les œuvres de ces différents auteurs ou créateurs. Autrement dit, ce qui m'importe, la première chose qui m'importe, c'est la lumière que ces créateurs eux-mêmes font rayonner vers le spectateur ou vers le lecteur. Alors ça, c'est, si vous voulez, la structure fondamentale que je cherche à mettre en évidence. Les problèmes d'interprétation externe dépendent naturellement des positions personnelles des uns ou des autres.
Mais vous ne vous les permettez pas, ces interprétations.
C'est-à-dire, si ce que j'avais dit, d'ailleurs ce qui est assez curieux, c'est que ce que j'avais dit dans mon premier livre, c'est que la mariée de Duchamp avait une signification anti-religieuse. Et ceci n'a pas été contesté par Duchamp. D'ailleurs, ça me paraît évident de, quand on lit les textes de la boîte verte. Mais le problème, vous voyez, il y a une question de phase. L'analyse de ces œuvres sont d'une richesse inépuisable. Et alors, au début, j'ai voulu aller, je n'ai même pas voulu, j'ai été en quelque sorte emporté par le courant qui m'entraînait, et j'ai, si vous voulez, en quelque sorte traversé toute la région, et depuis, pour aller d'un bout à l'autre, et en effet me poser des questions d'interprétation extérieure, comme celle d'ailleurs que vous me posiez tout à l'heure très librement. Mais maintenant, ce qui m'importe le plus, c'est-à-dire comme pour les soucoupes volantes, vous comprenez, pour les soucoupes volantes, pour moi, le problème n'est pas de savoir si on y croit ou si on n'y croit pas, à mon sens, ça n'a aucune espèce d'intérêt. La question, c'est de savoir pourquoi on peut être amené à admettre que certains aspects du phénomène sont réels et que d'autres aspects sont irréels ou mythiques. Alors, pour les machines célibataires, je concentre depuis plusieurs années, je concentre tout mon effort de révision sur le travail de mise en évidence des structures internes, parce que plutôt que de projeter mon éclairage personnel, je l'ai donné, ma foi, pour l'instant je ne vois rien à y ajouter, mais pour moi ce qui est le plus passionnant, c'est de demander à ces créateurs et à leurs œuvres de demander la lumière qu'elles nous apportent. C'est ça qui pour moi est l'essentiel, parce que ce que je souhaite mettre en lumière, c'est la structure générale des mondes mythiques modernes dans lesquels nous vivons. Et à mon sens, c'est seulement dans la mesure où nous y arriverons que nous pourrons les uns et les autres prendre des positions plus claires, non pas dans l'énoncé des positions, mais dans les fondements de ces positions, dans les explications qu'on peut en donner. Alors que je ne pense pas d'ailleurs que les oppositions de principe sur l'interprétation du monde puissent varier tant que nous sommes dans le monde où nous sommes, mais je pense qu'il y a une compréhension du monde qui est indispensable, parce que c'est une lutte fondamentale contre l'aliénation. L'aliénation au sens le plus général du terme, au sens hegélien du terme. D'ailleurs, il y a des aspects d'aliénation sociale qui apparaissent aussi. Et il y a le problème des générations qui succèdent. Enfin, c'est inépuisable. Mais pour moi, justement, comme il y a énormément de choses à dire, la première chose, c'est de mettre en lumière ce qui ressort comme structure d'ensemble.
Pardonnez-moi, mais si j'ai fait cette allusion à votre entrée fracassante chez les surréalistes, mais elle faisait partie de l'histoire de la littérature et je ne pouvais pas ne pas la citer, d'autant moins que, au point où nous en étions dans notre discussion, on pouvait craindre que vos convictions personnelles ne vous aient influencé dans vos conclusions, si vous en avez, ou les embryons de vos conclusions. Mais enfin, maintenant, l'équivoque est levé. Et revenons-en, si vous voulez bien, pour finir, à ce merveilleux qui fait le titre de notre émission, La machine et le merveilleux. Je crois que vous seriez d'accord avec moi pour expliquer que ces machines ne sont pas obligatoirement monstrueuses et qu'il y a quand même une ouverture, pris que nous sommes cependant dans ces rouages.
Certainement, mais je pense que, en partie, chez les auteurs ou créateurs de ces machines, il y a à la fois une certaine passion pour la machine et en même temps un sens de ce qu'il y a de tragique dans la machine. Il faut penser à tout le problème terrible des accidents, que ce soit les accidents du travail, les accidents d'automobile ou tous les autres accidents. Mais eux-mêmes ont été passionnés par la machine. Jules Verne, c'est absolument certain, évident. Et Rousseau s'était fait faire une machine automobile tout à fait spéciale pour circuler. Jarry était passionné de bicyclette. Et Kafka avait vu avec émerveillement, entendu parler d'abord avec émerveillement du premier vol de Blériot en 1909 au-dessus de la Manche. Et il s'est précipité, si je puis dire, avec son ami Max Brod à Brescia en septembre 1909, ou octobre, pour voir Blériot sur son petit monoplan jaune voler dans le ciel d'Italie comme avant il avait volé au-dessus de la Manche. Et je suis sûr que le même créateur aurait vu, ou enfin Duchamp a encore pu voir, le vol d'Armstrong et d'Aldrin allant vers la Lune, à l'intérieur même de machines, et dans des conditions si terribles, que, comme l'avait envisagé Duchamp, dans la boîte verte, Aldrin et Armstrong se sont trouvés faire partie d'une société dans laquelle il fallait payer l'air qu'on respire. Ça, c'est écrit en toutes lettres dans les textes de Duchamp, et ça a été vécu par Armstrong et Aldrin. Et en même temps, Armstrong et Aldrin ont accepté de risquer leur vie pour aller sur un autre monde, un monde que nous n'avions jamais exploré, pour sortir du berceau de l'humanité qu'est la Terre, pour reprendre l'expression de Tsiolkovsky. Par conséquent, il y a chez eux certainement un sens ambivalent de la machine, parce qu'elle-même est ambivalente, elle est à la fois tragique et merveilleuse, de même que le théâtre grec est à la fois tragique et merveilleux.